dissidence. Mais la dissidence, c'est une opposition, c'est un désaccord, c'est une façon de dire non. Mais saviez-vous qu'à l'origine, en latin, il y a surtout l'idée d'être séparé? On disait en médecine que des parties du corps étaient dissidentes ou disjointes. Ce qui nous rappelle que la dissidence, plus encore que l'action de dire non, c'est peut-être d'abord une manière d'être, un mode de vie, celui qui consiste à se tenir un petit peu à l'écart, à la marge. Et ça peut être une philosophie. On s'est exclu du groupe parce qu'on en refusait son fonctionnement politique, religieux, son idéologie. On s'est exclu du groupe et on en paie d'ailleurs le prix. C'est toujours comme ça qu'on nous définit. Mais l'avantage, c'est qu'on est dans une position privilégiée pour mieux le regarder, le groupe. Avec un peu de distance, on en cerne plus facilement les contours, les dynamiques, les logiques de discours. Depuis l'extérieur, on prend de la hauteur. On observe notamment les failles qu'on nous avait dissimulées. La dissidence, c'est le refus sans cesse renouvelé de se soumettre à un mensonge, à ce que l'on nous ordonne de penser, à ce qu'on nous vend comme une norme bien soudée, à ce qu'on nous dit être la vérité, alors que ça reste à prouver. Alors toute la beauté, pour moi, de la dissidence, au fond, c'est pas d'avoir dit non, c'est de s'installer sur le côté pour mieux regarder.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui fait depuis 20 ans dans la dissidence musicale. C'est un des pionniers de l'électro qui n'a pas fini de nous faire danser sur une fusion grisante de techno, d'acide, de new wave, de disco. Dissidence, le deuxième volume d'un projet bouillonnant, paraissait début mars. Il est actuellement en tournée dans toute l'Europe et en France. Bonjour Vitalik.
Salut.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce qu'il y a de plus dissident en vous ?
C'était une très belle description de la dissidence, d'ailleurs, ce que vous venez de faire. C'est pas forcément volontaire, en fait. C'est quelque chose, après 20 ans de musique, je me suis posé la question, et c'était ce qui résumait, plutôt que de dire disco, électro, techno, c'était la dissidence dans le sens où je me suis toujours mis en parallèle des modes. J'ai toujours regardé, je m'en suis toujours aussi inspiré, mais jamais rentré dans aucune chapelle. Et faire un petit peu ce que j'avais envie de faire à ma sauce. Donc faire de la disco quand tout le monde fait de la techno, faire de la techno quand tout le monde fait de la disco. C'est pas volontaire, c'est juste...
Mais c'est toujours être à côté quand même, et regarder.
Toujours en parallèle, ouais. Hein, ouais.
Est-ce que faire une musique dissidente, c'est pas aussi tout simplement proposer une musique qui fait danser, Vitalik?
Alors elle fait danser, mais pas que, parce que je mets du... Il y a des mots, il y a du sens dans... Je raconte des histoires, voilà, ça reste de l'électronique qui raconte des histoires.
Précisément, dans l'origine même de la musique électro, et ça c'est un peu d'histoire qu'on fait, qu'est-ce que la danse, la fête ont à voir avec la dissidence, Vitalik ?
Si on remonte jusqu'à la disco, par exemple, c'était quelque chose de très, très politique, ça peut être très politique de danser. Même les rêves partis ont cet aspect politique, d'aller contre les lois, c'était le cas aussi pendant les confinements avec les kids qui ont organisé des fêtes illégales. Il y a quelque chose de politique dans l'acte de danser, c'est pas que danser, ça veut dire aussi quelque chose.
Surtout de la part de populations discriminées,
voilà,
minorisées.
Par exemple pour les minorités gays et noires aux US, pour le disco. Oui.
Qu'est-ce qui caractérise l'énergie qui circule et qui se déploie pendant une rêve? Puisque vous les citez, ces rêves partis du début des années 90 en France que vous avez bien connus, cette énergie, j'ai l'impression qu'elle est au cœur du deuxième volume de votre projet, Dissidence.
C'était l'interdiction, mais moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était les plus petites rêves, pas forcément les gros rassemblements. Il y a quelque chose de très bucolique, les petits rassemblements de 500 à 1000 personnes, très bucolique, très proche de la nature, très bon enfant en fait. Et ça me plaisait beaucoup.
Vous ressentez quoi quand vous dansez, vous ?
Je peux pas dire ce que je ressens. C'est assez fou parce que moi, je suis pas très bon danseur, mais je danse quand même. Et je peux pas dire pourquoi j'aime ça.
C'est un besoin.
C'est un besoin. Oui, c'est un besoin. Je danse régulièrement en fait, mais je peux pas expliquer pourquoi j'aime ça.
Et comment on fait, Vitalik, pour faire danser avec un morceau? De quels outils est-ce que vous disposez en fait?
Alors, il y a des choses qui sont de l'ordre de la rythmique, donc qui sont connues, mais faire danser. Moi, mon truc, c'est de faire danser avec des mélodies. C'est un peu plus compliqué en techno, mais il n'y a pas vraiment de recette. Mais j'ai mis une patte, j'ai mis mes petites techniques. Ouais.
On va regarder, on va écouter, on va danser un petit peu. C'est aussi ça, hein. penser aussi au générique du film Les Combattants et de la série Vernon Subutex. Puis il y a toute une autre partie de votre travail qui culmine quand même avec ça. Ce remix de Who Is It de Björk, je sais que ça vous a beaucoup marqué, ça.
Ça m'a beaucoup marqué. Ce qui m'a marqué, c'est de recevoir une demande de Björk dans un premier temps. Et dans un second temps, quand on fait un remix, on reçoit les parties séparées du morceau, donc tous les instruments éclatés sur plusieurs pistes.
C'est fascinant, ça.
Et à deux reprises, j'ai pris vraiment ça en pleine face, seul dans mon studio. C'était la voix de Björk en a cappella, comme ça, remixée, et celle d'Amadou et Mariam pour Sabali. Et ça souffle, quoi.
Et alors, quelle transformation est-ce que vous lui avez fait subir ce morceau pour qu'on comprenne ? N'ayez pas peur d'être technique, parce que ça, c'est quelque chose qu'on vous reprochera jamais ici.
Alors, beaucoup, parce que je me suis inspiré de la mélodie de base de sa voix pour mettre des orgues autour. Et en même temps, j'ai aussi modifié la voix pour que ça colle de la façon dont je voulais que ça colle. Donc, ça fait beaucoup de transformations. Ça s'entend, la voix est très modifiée.
À quoi ça tient un bon remix pour vous? Parce que c'est quelque chose que vous faites très bien et régulièrement.
Un bon remix, c'est réinterpréter un morceau de manière personnelle, c'est se l'approprier. Et en même temps, saisir, l'amener ailleurs et peut-être aussi saisir l'air du temps.
Ça veut dire qu'on oublie que c'est un remix, en fait, quand on l'écoute.
Il faut vraiment que, à mon avis, un remix réussi, c'est qu'on oublie qu'il y a un original. Ça ne veut pas dire mieux ou moins bien, mais qu'on ne sente pas les recettes, que ça soit un tout.
Vous vous adressez parfois directement à l'artiste. Il a un droit de regard.
Il a un droit de regard, oui. Ouais. Il a le droit de dire oui ou non. Ouais. Ouais. Certains, parfois, avec Étienne Dao, par exemple, il a été là tout le long du remix. On l'a pratiquement fait ensemble. Parfois, c'est juste pas de nouvelles, et puis oui ou non, il y a pas de règles.
Alors, parmi les artistes dont vous avez réinterprété le travail, il y a aussi les Daft Punk, quand même, sur un morceau de l'album Human After All, qui s'appelle Technologique. Quand est-ce que vous avez découvert la musique des Daft, vous, Vitalik?
Au tout début. Vraiment, au tout début, milieu années 90, quand ils étaient sur un label écossais qui s'appelle Soma, et tout de suite, j'ai senti que, avant que ça n'explose, que c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau. Il y avait eu beaucoup de tentatives de pont entre le rock et l'électronique et la techno, mais c'était toujours un peu maladroit, pas très, ça marchait pas trop, et eux, tout de suite, il y avait quelque chose de complètement nouveau, voilà. Donc j'ai adhéré.
Parce que dans l'histoire de l'électro, pour qu'on comprenne bien, il y a un avant et un après Daft Punk.
Je pense, ouais.
Lié à justement cette fusion dont vous parlez.
À ces fusions, parce que ils ont aussi amené le côté français des années 80, de cette pop années 80, ou même ils l'ont amené dans leur techno, et ça fait plein de mélanges, en fait.
Vous pensez à Élie et Jacquenot, par exemple?
Je pense à ça, mais je pense même à la funk un peu américaine, ou quelque chose qu'ils font encore maintenant. Mais c'était vraiment une fusion de plein de styles qui est très très réussie.
Et dans quelle mesure est-ce qu'ils vous ont inspiré, vous ?
Ils m'ont inspiré dans le côté, surtout au départ, dans le côté brutal de Rolling and Scratching et de Da Funk, qui sont des choses qui ont l'air simples et en même temps qui le sont pas. Et puis c'est un peu il y avait un peu, je m'en fous du style, et le morceau est comme ça. C'est ça qui m'a beaucoup inspiré.
C'est ce qu'il faut, en fait.
C'est ce qu'il faut, je pense, pour moi, en tout cas.
Ça vous a autant inspiré que Sheila, Vitalik?
J'adore Sheila aussi.
Bah, nous aussi, on l'embrasse. Elle est venue ici, hein.
J'adore Sheila, je trouve, ça m'a inspiré. Sheila m'a pas vraiment inspiré, mais je l'écoute beaucoup.
Mais vous dites que ces morceaux sont très bien construits, souvent. Ça m'a intéressé à quel morceau vous pensez, de Sheila.
À Spacer, par exemple, qui est un morceau,
disco.
Qui est un morceau disco, qui est très long, qui est indémodable. Beaucoup de jeunes, quand je fais écouter ça à des kids, ils trouvent ça super, en fait.
Parce que vous l'utilisez, vous, dans vos mix?
Je l'utilise pas dans mes mix, mais j'utilise dans mes tourbus.
Dans vos tourbus?
Ouais.
Bah, attendez, on a... vous savez qu'il y en a une qui adore les tourbus dans cette émission. Est-ce que vous la connaissez?
Non, c'est qui?
Ah bah c'est la culture et son actualité tout entière du côté de la déconstruction. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 1er avril?
J'ai vraiment envie d'entendre les lecteurs. Je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant que d'entendre les gens parler de livres, en fait.
La sélection est tombée. Les 10 livres en lice pour notre 48e prix du livre inter ont été révélés hier. Présidé par Delphine Devigan, le jury de 12 femmes et 12 hommes devra donc départager La fille parfaite de Nathalie Azoulay, Nom de Constance Debray, Monument national de Julia Deck, Au printemps des monstres de Philippe Janada, Grande couronne de Salomé Kinner, Connemara de Nicolas Mathieu, Le gosse de Véronique Olmy, Feu de Maria Pourchet, La fille qu'on appelle de Tanguy Viel et Mahmoud ou La montée des eaux d'Antoine Vauters. Fin du suspense en juin prochain.
Tout cela, madame, c'est Versailles.
Après des mois de travaux, le château de Versailles rouvre aujourd'hui plusieurs appartements princiers, ainsi que l'emblématique salle du jeu de paume où Louis XVI convoqua les états généraux en 1789. Entièrement restauré par l'architecte en chef des monuments historiques Pierre Bortolussi, l'endroit tout de rouge, sombre, de bois, de gris profond, rend visible à nouveau la toile, rafraîchie elle aussi, représentant le serment qui scella la naissance de la démocratie en France. C'est royal! Noir, c'est noir, vive quai du Polar, la ville de Lyon lance aujourd'hui la 18e édition de son prestigieux festival du roman noir, déployé cette année autour du thème de la ville. Jusqu'à dimanche, 130 auteurs sont attendus en dédicace dans la capitale des Gaules, parmi lesquels les stars du genre, Caryl Ferret, Franck Tillier, David Peace, John Mayer. Seul ombre au tableau, les têtes d'affiche Arlan Coben et John Grisham, positifs au Covid, ont dû annuler leur venue.
La nitroglycérine, c'est opus palladium, ça s'écoute. Rue Fontaine, il y a foule pour les petits gars de l'hiver.
Et enfin, terminus annoncé pour le bus Palladium. Le mythique club parisien de la rue Fontaine, près de Pigalle, va fermer définitivement ses portes demain soir après une dernière nouba de tous les diables. Temple du rock et de la fête populaire, il était resté depuis son ouverture en 1965 un repère pour la jeunesse électrique et les artistes noctambules, chanté par Gainsbourg, privatisé par Mick Jagger, fréquenté par Bachung, Dao, les Rita Mitsuko, Mikao. Par la pandémie, l'endroit va devenir un hôtel. Musicien Vitalik, invité de Boomerang ce matin pour ses 20 ans de carrière. Vitalik, je me suis demandé dans quel environnement musical est-ce que vous avez grandi, vous, dans votre famille?
Dans ma famille, j'ai grandi en étudiant le trombone et puis le solfège. Et mes parents écoutaient un peu de tout, de la disco, de la chanson populaire italienne, de mon père à fond dans la musique militaire. Bon, il y a plus, c'était
ça vous a inspiré la musique militaire, vous pensez?
Finalement, un peu, ouais. Ça peut s'entendre. Ouais.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même cette formation classique. Elle vous sert encore aujourd'hui?
Elle me sert. Je pense que ça m'a donné une. Dans mon écriture à moi, on entend du trombone.
Ouais.
C'est évidemment, c'est pas flagrant, mais il y en a. Ouais.
Alors, sous quelle forme, en fait?
C'est souvent, on appelle ça des leads, des mélodies au-dessus qui remplacent la voix, par exemple. Mais le trombone, c'est un instrument très très polyvalent. Il fait des basses, des leads, beaucoup de choses.
Vous en jouez encore?
Non.
Quand est-ce que vous avez compris, Vitalik, que la musique que vous vouliez faire, en fait, c'était de l'électro? Qu'est-ce qui s'est passé?
À 6 ans.
Ah, vraiment?
Ben oui.
Donc, alors, sur quel morceau d'électro est-ce que vous êtes tombé à 6 ans?
Alors, j'écoutais beaucoup de disco, Giorgio Moroder.
Ouais.
Et Jean-Michel Jarre aussi. Je prenais les disques de mes parents. Et puis, j'ai demandé un jour en voiture à ma mère quelle serait la musique du futur, un peu inquiet. Et puis, elle m'a dit, c'était la musique que j'écoutais déjà avec des synthétiseurs. Et j'avais décidé que c'est ce que je ferais. Ouais.
Elle avait raison ou elle avait tort?
Elle avait raison.
La musique du futur, c'est ça?
Ouais,
c'est tout. Concrètement, quel logiciel, quelle machine est-ce que vous utilisiez au tout début?
Au tout début, j'utilisais les trucs pas chers déjà, parce que ça coûtait une blinde les synthés. Et comme j'étais étudiant, c'était un peu compliqué. Donc mon premier synthé, c'était un MS-20 de Korg. Maintenant, ça vaut une blinde, mais à l'époque quand j'ai acheté, c'était vraiment les vieux bousins, comme on disait, pas cher, donc c'était ça, la Korg MS-20.
Et puis les logiciels aussi, je suppose qu'ils offraient quand même moins de possibilités à l'époque qu'aujourd'hui.
C'était très rudimentaire comparé à maintenant. Oui.
Et quelle était à l'époque, dans une ville comme Dijon, la place de la musique électro? Vous nous avez
Alors,
parlé
énorme.
Énorme.
Ouais. énorme. On a la chance parce qu'on était en pleine Bourgogne. On avait un club qui s'appelait L'Enfer, qui était mythique, avec beaucoup de DJ internationaux qui passaient.
Alors L'Enfer, L'A-N-F-E-R, club mythique, effectivement.
Ouais, donc j'y étais du jeudi au dimanche. Et puis par-dessus...
Mais à partir de l'âge de 6 ans, Vitalik ?
Ah non, non, plus vers 16 ans. Ouais.
D'accord.
Et puis, y avait beaucoup de rêves et d'événements, tout ça. Donc, c'était très, très, très vivace.
Vous dites vivace, c'était un laboratoire aussi, expérimental?
Avec beaucoup de musiciens locaux, avec une vraie scène. Pour une petite ville, c'était vraiment, j'ai beaucoup de chance au final, oui.
Mais en fait, si vous y étiez du jeudi au samedi, ça a été une deuxième maison, non?
Ça l'était, oui.
Un lieu de quoi? Un lieu d'affirmation de soi aussi? Un lieu de liberté?
Il y avait, oui, le jeudi, c'était les soirées indie. Le vendredi, les soirées vraiment techno. Le samedi, les soirées plus généralistes. Et le dimanche, les soirées gays.
À partir de quel moment?
Un peu comme en Rosa, plus ou moins, en fait.
Rosa maintenant, ouais. À partir de quel moment est-ce que vous avez commencé à y jouer?
J'ai commencé à y jouer, je dirais, la première fois, peut-être 98 ou 99.
Écoutez.
Quand on va dans un lieu parce qu'on aime une musique, parce qu'on est gay, parce qu'on est black, parce qu'on est quoi que ce soit, et qu'on va retrouver les gens avec qui on se sent bien, c'est une façon aussi politique de s'assumer. Sans la scène gay à Paris fin des années 80, il y aurait jamais eu la techno en France. Sans les Afro-Américains, on n'aurait pas la techno tout simplement. Et à un moment, quand on est black aux États-Unis, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, le jazz aussi, ça a été ça. Et ils venaient beaucoup en France et en Europe pour pouvoir gagner leur vie. Et c'est vrai que la techno, c'est exactement ça. Parce que la techno est née à Détroit, dans les ghettos noirs. La house music est née à Chicago, dans les ghettos noirs. À la base, elle était jouée dans les clubs gays noirs américains. Ouais, c'est pas anodin tout ça.
Laurent Garnier, que vous avez reconnu, vous avez tout reconnu, Vitalik, même la musique de Jeff Mills derrière, que vous connaissez bien. Il y a 3 ans, Laurent Garnier nous parlait de ce lien profond, vous en parliez aussi un peu, qui existe entre techno et minorité politique. C'est un lieu de résistance politique, toujours, pour vous, encore?
Oui, on le voit maintenant. Bon, par exemple, la nuit parisienne gay a pris vraiment énormément d'ampleur avec beaucoup de soirées, beaucoup de monde. C'est engagé, oui.
C'est une façon d'exister, en fait, pour ces minorités, de se mouvoir, oui, dans l'espace public. En tout cas, ce que ça dit aussi, c'est la perméabilité des artistes à l'air du temps. Quelle éponge est-ce que vous êtes, vous, de l'air du temps? Vous aviez commencé comme ça.
Quelle éponge je suis?
Ouais. Vous le saisissez dans votre musique, je suppose.
J'en parle, oui, mais toujours avec des filtres. C'est jamais frontal, ma musique. Il y a toujours des. Je raconte des histoires avec des. Je raconte un peu ma vie, mais ou la vie, mais toujours avec des filtres. Ouais. Oh,
ben. Mais ça veut dire, Vitalik, que l'actualité entre en écho avec les sons, avec les mélodies, avec les ambiances, avec les productions.
Oui. Par exemple, mon album avant Dissidence s'appelle Voyager. Mmh. Il est très très solaire, très comme très cosmique, très apaisé, une période ensoleillée. Et puis j'ai fait mon groupe Compromat. Et puis quand j'ai commencé à l'écriture de Dissidence, il y avait déjà quelque chose que je trouvais très tendu socialement, beaucoup de colère, il n'était plus question pour moi de faire de la disco. J'avais envie de quelque chose de plus affirmé, de plus dur, de plus sombre.
Et quand la pandémie arrive, ça ne fait que renforcer ça, en fait.
Oui. D'ailleurs, c'est le disque sans, comme ça parle de ça, de frustration, de solitude, le fait de l'interdiction de se rencontrer, l'interdiction de danser, c'est le thème du disque.
C'est quand même passionnant quand vous pensez à l'Ukraine, par exemple. L'Ukraine qui, je le sais, compte beaucoup dans votre imaginaire d'artiste, qui est un pays dans lequel vous avez souvent joué. Pourquoi l'Ukraine, tiens, Vitalik, au départ?
L'Ukraine, parce que j'y suis allé, je suis russophone, j'étais étudiant en russe, et j'ai visité l'Ukraine dès 91, donc 2 ans après la chute du mur. Donc j'ai vécu l'indépendance de ce pays en étant lycéen. Donc c'est un pays, c'était très exotique pour moi, de Dijon, de me retrouver à Kiev. Mais j'ai un peu grandi en étant adulte, en voyageant dans ces pays-là, mais surtout en Ukraine. Et puis donc c'est très bizarre d'avoir vécu l'indépendance du pays et de voir ce qui se passe maintenant, ça me touche forcément beaucoup.
Et ça se ressent dans la musique que vous écrivez en ce moment?
Ça se ressent dans la musique que j'écris en ce moment, oui.
On va reparler ensemble d'émotions, de sons, de chocs, de réponses qu'a la musique à tout ce qu'on traverse juste après Friends and Foes sur votre nouvel album Dissidence épisode 2. Vous êtes sur France Inter avec Vitalik, vous écoutez Boomerang, évidemment.
Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
En fait, c'est vraiment un pirate pacifique avec sa montre orange. Hein. Ce matin, il est le crâne nu, barbe polychrome, anneau de flibustier aux deux oreilles, regard à l'abordage, on l'imagine à la barre d'une frégate futuriste, mettant le cap vers des destinations encore inexplorées, avec son petit pull bleu marine, le musicien Vitalik, invité de Boomerang, pour parler de création, d'expérimentation, de recherche aussi musicale. En quoi créer, pour vous, en fait, c'est toujours rechercher. Et vous pouvez prendre, pour exemple, ce titre Friends and Foes qu'on vient juste d'entendre.
Oui, je passe beaucoup de temps en recherche de son, de production, c'est aussi là qu'on peut trouver l'inspiration, et c'est aussi ce qui amène de l'eau au moulin du musicien, c'est chercher des sons, chercher des techniques, et Friends and Foes, c'est un morceau que j'ai commencé en 2013.
2013. Bah, ça fait 9 ans, Vitalik.
Ça fait 9 ans. Ouais. Mais, au début, c'était juste pour un petit bout dans le live de l'époque, et puis après, j'ai cherché plein de directions différentes. J'étais jamais satisfait. Et puis juste avant, je crois que c'est l'avant-dernier morceau de l'album, j'ai trouvé les techniques de découpage de son aléatoire. Donc c'est le même sample qui se répète, mais il se découpe jamais de la même façon. Ça fait vraiment quelque chose qui, comme si ça clignotait auditivement.
Oui, c'est vrai. Ouais. Alors c'est intéressant parce que on l'a compris, hein, vous l'avez dit, la musique électronique dès ses débuts, elle est indissociable de cette idée d'expérimentation. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui dans la production musicale que vous voyez, que vous écoutez?
On est un petit peu en ce moment. Je trouve que c'est très très bien produit, c'est très bien fait, c'est peut-être un petit peu poli. Par rapport à ce qu'on a pu faire dans les années 90, tout était nouveau puisque ça n'existait pas avant.
Moi, je vous ai déjà entendu dire que ce qui avait changé, c'était le rapport des artistes à la scène électro et à l'image, en fait. Qu'avant, le musicien techno était censé s'effacer entièrement derrière sa musique et que c'était plus forcément le cas aujourd'hui.
Alors moi, je trouve que c'est bien aussi que la musique soit habitée par celui qui est ou celle ou ceux qui la font. Je trouve que c'est pas plus mal qu'on puisse mettre... C'est sexy de pas connaître le visage, tout ça participe, c'est aussi une sorte de marketing quelque part, masqué derrière des convictions, mais c'est aussi... Moi, je trouve ça bien que que d'ailleurs l'électro ça a été ça avec Miss Kitty, Knacker, c'est fini les bandanas, moi je suis une fille, je suis sexy et je viens chanter sur scène. Et pour Michel, moi je suis un beau mec avec une mèche. Il y avait ce truc là, ce qui était nouveau en fait en électro, et c'était cool aussi. C'est juste peut-être que le rapport entre la musique et le marketing, c'est inversé, c'est peut-être plus 80% de marketing et 20% de musique, mais c'est notre époque et c'est comme ça.
Mais quand même, quand vous entendez ça...
Papa,
Jean-Michel Jarre, en 76, l'année de votre naissance en
oui,
plus,
oui,
l'album Oxygène, quand vous écoutez ce morceau justement, qu'est-ce qui retient votre attention vous tout de suite?
De mon époque où j'écoutais quand j'étais gamin.
Oui, et puis même aujourd'hui avec votre recul, vos analyses.
Ça me fait toujours, quand j'étais gamin ça me faisait vraiment peur, mais j'étais très attiré par le disque, même si ça me faisait peur, j'arrêtais pas d'écouter.
Toujours peur de son papa.
Et puis encore maintenant, je trouve ça vraiment moderne en fait. C'est pas quelque chose, ça n'a pas vieilli, et je l'ai fait écouter. Par exemple, c'est ancien. Si je l'ai fait écouter à des copains, ça m'arrivait italien, sans rien dire, je mets des morceaux de Jarre et ils trouvent ça dingue et ils savent pas que ça a été fait en 76.
Et qu'est-ce que vous avez le sentiment d'apprendre en l'écoutant toujours?
Vraiment un travail sur la mélodie
et
la texture aussi.
Oui, c'est ça. Parce que vous parliez au départ de votre musique électro très mélodique. Pour moi, c'est ce que ça m'évoque immédiatement, Jean-Michel Jarre.
Ouais, c'est la mélodie et puis la texture.
Ça veut dire quoi, la texture?
La texture des sons, c'est... je sais pas si on peut faire des comparaisons, si c'est mat, si c'est brillant, si c'est épais, léger. Moi, je vois des couleurs aussi, s'ils sont bleus, rouges, voilà.
Oxygène, c'est bleu.
Oxygène, c'est bleu.
Et Dissidence, votre dernier album?
Et Dissidence, il est blanc et noir.
J'aurais dit rouge, moi. Et je me disais, effectivement, chez Jean-Michel Jarre, il y a aussi un rapport au récit. Faire de la musique, composer des morceaux, c'est toujours, pour vous, vous le disiez au début de cette émission, raconter une histoire, Vitalik.
Je peux faire la musique sans histoire, ce sera plus sous mon alias Dima, et puis ça peut m'arriver aussi pour faire des morceaux purement live, où c'est là pour, c'est vraiment hédoniste et sur l'énergie. Mais si je me mets sur le un travail de longue haleine comme un album, en général, il me faut des histoires.
Alors, il se trouve que vous nous avez raconté une histoire, en fait, ce matin. On a une chance inouïe, une histoire qui s'appelle Fils du Vent, avec la chanteuse Emel Matlouti. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette histoire, qu'on va entendre?
Elle nous raconte l'histoire d'une rencontre avec Emel à Radio France, ici, il y a un an, en fait. Et on se connaissait pas, et j'ai tout de suite aimé sa voix, on s'est parlé, et après on s'est rencontrés, on a commencé à faire la musique ensemble, et donc ça c'est, on a cinq morceaux en tout, on en a fini deux, mais celui que je vous ai donné c'est encore en construction, c'est vraiment une démo.
C'est la première fois qu'on l'écoute.
C'est la première, ben c'est pas fini donc oui.
On écoute.
Yeah.
Vitalik pour ce gâteau, ce cadeau, l'île du gâteau exceptionnel du vendredi. Fils du vent avec la chanteuse Emel Matlouti. Merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que les deux volumes de Dissidence sont disponibles, que vous êtes en tournée dans toute l'Europe. On vous retrouvera notamment le 15 avril à Morlaix, le 23 au printemps de Bourges, puis à Laval, Marmande, Neuve-Église, Carré pour les Vieilles Charrues cet été, beaucoup d'autres. Merci à vous et à toute l'équipe de Boomerang, Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Victor Candelaft, Pierre Démé et Jean-Baptiste Audibert. Tout de suite, les médias, est-ce que vous m'entendez, Sonia?
Oui, Augustin, je vous entends et je vous
dis... Mon angoisse existentielle.
Ben oui, c'est pour ça qu'on vous aime. Et je vous dis à lundi.
À lundi.
Salut.